Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un témoignage dur, très dur, que nous vous proposons ce matin. Le récit d'une femme ayant connu la rue pendant 15 longues années, trop longues années. Une femme comme on en croise de temps en temps dans les rues de nos villes, des ombres, si l'on peut dire, auxquelles il est difficile de s'habituer, qui nous bousculent et qui nous font souvent crier intérieurement « Que faire ?». Cette femme s'appelle Anne Lorient. Aujourd'hui mère de deux enfants, Anne Lorient, véritable mère courage, a trouvé la force d'écrire ce livre témoignage « Rencontre ». Anne Lorient, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions de La Martinière intitulé « Mes années barbares, des viols 15 ans dans la rue, après l'enfer je veux connaître la paix ». Alors comme je le disais en introduction, je préviens tout de suite nos auditeurs, c'est une émission bien particulière. On a l'habitude de recevoir beaucoup de gens dans cette émission et à la radio. Mais voilà, là c'est un témoignage d'une grande vérité et en même temps d'une grande crudité, d'une grande difficulté. Témoignage bien nécessaire et on est très heureux de vous accueillir. Alors il y a plusieurs choses dans votre livre. Entre autres, il y a les années familiales où vous avez vécu l'inceste. Vous étiez de passage à Toulouse récemment pour ce sujet. Vous avez témoigné devant un certain nombre d'associations familiales. Aujourd'hui, depuis qu'est paru ce livre, donc en janvier dernier, j'allais dire vous battez la campagne. En tout cas, vous commencez à rencontrer un certain nombre de gens sur cette question délicate de l'inceste. Avant qu'on rentre peut-être dans le détail de ce livre, vous direz que c'est encore un trop grand tabou en France.
Oui, donc en fait, j'ai ouvert la parole sur l'inceste, pas que, il y a aussi sur les viols, sur la vie de SDF, mais c'est vrai que l'inceste est un sujet très difficile à aborder, surtout dans les familles où on n'en parle pas, donc c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, malgré que c'est un gros silence.
Voilà, donc je disais, vous avez rencontré des associations familiales à Toulouse.
Oui, hier
et
soir.
Elles vous ont confirmé de fait que c'était un sujet délicat à aborder. Est-ce qu'il y a, à votre sens, d'après ce que vous, les rencontres que vous faites, suffisamment de prévention qui est faite sur ce sujet?
Il y a de la prévention dans les écoles. Donc genre, hier, j'ai rencontré des professeurs d'école qui m'ont expliqué qu'il y avait tous des livrets qui étaient donnés aux enfants. Comme quoi leur corps leur appartenait, comme quoi leur corps, personne ne devait les toucher, tout ça. Maintenant, c'est assez récent. Moi, mon histoire, elle date de 20 ans, et il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y a 20 ans, moi, quand j'ai subi l'inceste, j'en parlais à l'école, on me disait de me taire.
D'accord.
Donc voilà, donc il y a une vraie évolution, et heureusement.
Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre famille? Alors, il faut, avant toute chose, au début de votre ouvrage, il y a deux citations. Il y en a une de Nietzsche, philosophe allemand, qui dit la chose suivante: « La colère vide l'âme de toutes ses ressources, de sorte qu'au fond paraît la lumière. » Et une autre de Jean Cocteau: « Il y a ce qu'on fait de toi et il y a ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. » Donc c'est un peu le programme de ce livre. Vous commencez ce livre difficile. Hein, moi j'ai trouvé ça vraiment très très dur à lire. Et c'est pas de votre faute évidemment, où vous racontez donc une tentative de suicide et puis vous enchaînez en décrivant en fait ce que vous avez vécu en famille. Alors avant que vous ne décriviez, pas forcément dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait votre famille?
Donc ma famille est une famille bourgeoise du nord de la France et dans une famille donc avec de l'argent, avec une grande maison, etc., avec beaucoup d'enfants, il y a mon frère aîné qui supplante tous les enfants et qui est le maître de la maison, l'ange des parents, qui a droit de faire tout ce qu'il veut. Et nous, les petites filles, qui sommes que des esclaves de notre frère, quoi. Donc voilà. Donc l'inceste rentre dans ma famille par mon frère.
Faisait quoi comme métier peut-être?
Mon père était libraire et ma mère ne travaillait pas. Enfin, elle aidait un peu à la librairie, mais voilà.
Et votre mère n'était pas d'une très bonne santé, si on
peut dire. Ma mère était alcoolique. Très dépressive aussi. Alors, moi, j'ai jamais eu les clés. Je ne sais pas pourquoi elle était comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais rien du tout. Mais le fait est qu'à la maison, c'était très triste à la maison. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y avait rien. Et j'avais surtout mon frère qui avait 12 ans de plus que moi, qui abusait de moi et qui abusait de ma petite sœur. Et non seulement qui abusait de nous, mais qui faisait venir ses copains de classe pour abuser de nous.
Alors, vous décrivez entre autres, enfin, la première fois que ça s'est produit, c'est-à-dire que votre frère, en fait, vous fait regarder un magazine porno. Mm-hmm. Je sais pas, ça peut être l'occasion de dire un mot aussi, parce qu'on sait que le porno aujourd'hui, dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est devenu presque un fléau, et c'est probablement pas innocent.
Donc, actuellement, le porno, les enfants le regardent comme ils regardent n'importe quoi. En fait, ils ont plus de référence si c'est bien ou mal, en fait. Donc, ce qu'ils voient sur le porno, ils pensent que c'est la vraie vie sexuelle des gens, ce qui évidemment n'est pas comme ça. Et après, il y a 20 ans, le porno était beaucoup plus caché. Et donc déjà, le fait que mon frère me fasse regarder des pornos, c'était déjà un truc bien caché qu'il n'aurait pas dû faire, quoi.
D'accord, vous dites que vous aviez 6 ans.
J'avais 6 ans.
Vous vous souvenez de la réaction que vous avez eue en voyant ces images ou...
Ben, je ne comprenais pas. À 6 ans, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe.
Donc, ce drame familial, en fait, dure longtemps, beaucoup trop longtemps, comme beaucoup de choses qui vous sont arrivées dans la vie. Mm-hmm. Donc, c'est de 6 ans à 18 ans.
De 6 ans à 18 ans. C'est-à-dire que j'ai beau crier partout, à la maîtresse, partout, aux gens qui sont autour de moi, qu'il se passe des choses dans ma famille, on me dit de me taire, que dans une famille bourgeoise, c'est pas possible, c'est très tabou, que l'inceste, on n'en parle pas. On n'a pas le droit d'en parler. C'est interdit. Donc, on doit le subir. Ça, c'est autorisé, mais on n'a pas le droit d'en parler.
C'est-à-dire que vous en parliez à l'école ?
J'en parlais à l'école, j'en parlais au médecin, j'en parlais à la boulangère, au fleuriste, enfin à tout le monde. Et tout le monde me disait de me taire.
Tout le monde vous disait de vous taire ?
Voilà.
Comment vous expliquez ça rétrospectivement ? Parce qu'on se dit que là-dedans,
je pense que ma famille avait...
quelqu'un qui...
Non, ma famille était influente dans la ville. Mon père faisait partie du conseil municipal, etc. Et il n'était pas question qu'on abîme l'image de ma famille.
D'accord. Voilà. Vos parents savaient ce qui se passait ou...
Alors, ma mère a toujours douté de ce qui se passait. Mon père a surpris une scène, c'est-à-dire qu'un jour, mon frère me violait. Il est rentré dans ma chambre, il a vu la scène. Donc, je me dis, chouette, il l'a vu, il va pouvoir me sauver, mais il a refermé la porte. Et en fait, plus tard, il m'a dit qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Je crois qu'il avait vraiment le déni. En fait, il n'a pas compris que c'était son fils à lui qui pouvait faire ça à sa fille. Enfin, voilà.
Voilà, vous dites rétrospectivement dans votre ouvrage aussi que vous pensez que votre frère, en fait, était un pervers narcissique. Est-ce que, je sais pas, vous voulez dire un mot ? Alors, c'est un mot très à la mode. Aujourd'hui,
oui, c'est un mot à la mode.
Pervers narcissique partout, mais...
La seule chose que je peux dire sur mon frère qui est révélateur du pervers narcissique, c'est le côté ange. C'est-à-dire qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il fait partie, maintenant il habite en Bretagne, il fait aussi partie du conseil municipal. Il est connu par toute la ville de Bretagne. Et tout le monde lui donnerait le bon Dieu sans confession et... Et en fait, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Évidemment, ça cache des choses. Évidemment, voilà. Et donc, le pervers narcissique, c'est vraiment sa spécialité. C'est que tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Mais dès qu'on ferme la porte de la maison, il se passe des horreurs.
Sur cette période terrible donc, de votre enfance, après, on va le voir, donc à votre majorité, vous fuyez, en fait, vous allez à Paris. Dès que vous avez 18 ans, vous faites votre valise et puis vous sautez dans un train. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, peut-être aux auditeurs qui nous écoutent, enfin, on sait qu'ils sont nombreux, qui soit ont été confrontés à ce drame terrible, soit ont entendu parler d'histoires dans la famille. Comment faire face à ce genre de situation ?
Je crois que surtout, il faut libérer la parole. Il faut vraiment faire sauter les tabous. Il faut vraiment... si vous êtes victime d'inceste, il faut en parler à tout le monde, jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui réagisse. Maintenant, il y a beaucoup sur Internet de l'aide vis-à-vis des associations. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à écrire. D'ailleurs, même moi, j'ai ma page Facebook de Anne Lorient, si quelqu'un veut m'envoyer un message. Au moins, là, vous êtes écouté. C'est très important d'être écouté, entendu, et après, nous, on réoriente selon les avocats, selon les médecins, etc.
Donc, trouver quelqu'un qui aide.
Ouais, trouver quelqu'un qui aide, mais il faut vraiment briser la loi du silence. Après, si ce sont des familles entières qui vivent comme ça, il faut vraiment arrêter la reproduction. C'est-à-dire que l'inceste, ça fait des dégâts sur des générations et des générations, tant qu'il n'y a personne qui coupe la reproduction. Et ça, il faut avoir le courage de le faire. Il faut se mettre à dos la famille, il faut se mettre à dos les grands-parents, les parents, les cousins, les cousines. Mais c'est pour l'avenir de nos enfants. Et là, pour l'avenir de nos enfants, il faut vraiment arrêter.
Pour finir, pour faire écho à la rencontre que vous aviez eue hier, est-ce que les associations, comment elles ont réagi à votre témoignage peut-être ? Et puis qu'est-ce que...
Ils étaient très touchés. Tout le monde a été très touché. Il y a eu beaucoup de larmes. Mais je pense aussi qu'il y a eu une prise de conscience, justement sur la parole à faire exploser, quoi. Il faut vraiment parler.
Ouais. On va s'arrêter là, peut-être on va faire une première pause musicale et puis après on va parler de la rue, puisque donc, je le disais, vous dites qu'à 18 ans vous avez sauté dans le train pour direction Paris. Pour vous c'était
la délivrance parce que j'avais trouvé dans le carnet d'adresses familiales une adresse d'une de mes tantes qui habitait à Paris, et j'ai cru que j'allais être sauvée, voilà. Mais en fait ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu.
Enfin, il y a une question qui est peut-être indélicate à poser, mais c'est vrai que, en lisant ne serait-ce que ces premiers chapitres, on se dit, mais comment une petite fille, et après une adolescente, peut continuer à vivre, en fait, en vivant ça?
Mais elle peut pas, mais elle a pas le choix, parce que la vie est plus forte que la mort, et que j'ai essayé de me suicider plusieurs fois, et ça marche pas. Je crois que la mort ne veut pas de moi, et elle veut toujours pas de moi, et pour finir maintenant, à 50 ans, j'ai peut-être compris pourquoi elle voulait pas de moi, parce que j'ai peut-être une mission, justement, à parler.
Voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'on vous invite ce matin. On va faire une première pause musicale, et puis après, on va parler donc de ces 15 années, c'est ça, hein, 15 années à la rue.
D'amour, comble mon espérance, augmente en moi, Seigneur, ton divin feu. J'ai soif d'amour. Dans ton amour, t'exilant sur la terre, divin Jésus, tu t'immoles.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission de témoignage, un témoignage tout à fait exceptionnel, donc avec Anne Lorient, auteure de Mes années barbares, paru aux éditions de La Martinière. Je disais en introduction de cette émission, c'est une émission enfin vraiment particulière. Puisque c'est un livre aussi enfin, très, très, très dur, très fort, dans lequel Anne Lorient raconte, entre autres, donc, 15 années passées à la rue. C'est vrai que c'est rares sont les personnes en fait, qui écrivent après des livres, après avoir connu la rue, qui écrivent, pardon, ne serait-ce qu'un livre, après avoir connu la rue comme ça, avec aussi cette facilité d'expression
déjà,
que vous
rare,
avez.
Des gens qui s'en sortent, déjà, voilà. Pour commencer. Et moi, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin d'en parler.
Donc c'est un témoignage très précieux. Je le disais en introduction de cette émission, enfin au tout début, c'est vrai qu'on croise tous des personnes à la rue. Ce matin, en venant à la radio, j'ai croisé Schirol, voilà. Donc en plein centre de Toulouse, évidemment, une personne qui dormait dehors. Et tout le propos de ce témoignage ou de cette émission est aussi d'essayer de nous aider à entrevoir ce qui se vit, on va dire, côté Côté rue. Donc vous arrivez à Paris à l'âge de 18 ans, vous espériez trouver refuge auprès d'une tante et puis ça se passe pas bien.
Voilà.
Et donc après, vous connaissez la rue. Alors, je sais pas, les débuts de la rue, comment ça se passe tout simplement?
En fait, déjà, je suis arrivée chez ma tante pour trouver de l'aide. Et ma tante me dit, à propos de l'inceste, que c'est contagieux. Donc c'est un truc complètement idiot. Et donc, elle refuse que je rentre chez elle. Donc là, je me retrouve avec ma petite valise sur le trottoir à La Défense, dans les grands immeubles. Il n'y a que du béton. Je sais pas où aller, je sais rien faire. Je connais pas, donc j'essaie de marcher un peu, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, et la nuit tombe. Donc la première chose que je fais, c'est j'essaie de trouver un abri pour me mettre, pas au chaud parce qu'il faisait froid, mais à l'abri au moins. Et au bout de 2-3 heures où je suis frigorifiée au bas d'une porte, arrivent des hommes. Et des hommes qui me repèrent comme petite provinciale, innocente, qui n'a jamais rien vu de la vie. Et qui décide de me violer. Donc le premier soir de ma vie dehors, je me fais violer par 3 hommes.
Après, vous décrivez donc, enfin c'est difficile de continuer, hein, mais après donc vous décrivez un peu cette descente aux enfers. Quand on est à la rue, en fait, je vais poser beaucoup de questions bêtes, hein, donc je vous prie de m'en excuser. Mais on se dit, je sais pas, votre premier réflexe, ça a été quoi? Ça a été d'aller toquer à la porte des mairies, d'arrondissements, d'associations pour essayer de trouver une solution, ou pas du tout?
Le truc, non, parce que c'est ce qui devrait être fait, mais normalement, moi, le fait d'avoir été agressée le premier soir fait que je suis tombée en état de choc et que je pouvais plus parler du tout. Je suis tombée psychiquement muette. Et donc, j'ai pas compris cette violence, en fait. Je connaissais la violence de mon frère, de ses amis, mais cette violence de la part des inconnus, je connaissais pas. Donc, je me suis fait... j'étais en état de choc et j'ai pu... Enfin, vraiment, je pouvais plus parler. Et du coup, c'était encore plus difficile de se dire, je vais aller chercher de l'aide. Puisque j'étais... Et pendant 3 ans, j'ai pas pu ouvrir la bouche. Pendant 3 ans, je n'ai plus...
J'étais devenue muette.
Voilà, j'ai devenu muette par le choc. Donc, et au bout de 3 ans, j'étais vraiment devenue sauvage, je ressemblais plus à rien, j'avais des puces, des poux, j'avais plus de vêtements, voilà. Donc j'étais vraiment devenue invisible, hein, au nom de tout le monde, mais c'était presque un choix parce que je voulais plus parler à personne. C'était le choc traumatique, on appelle ça.
Comment vous avez vécu à la rue, en fait? Comment on fait pour vivre à la rue pendant les trois premières années comme ça?
Moi, j'ai vécu en mangeant dans les poubelles, en volant des fruits, des choses comme ça, et en agressant un peu les gens pour avoir 2-3 sous, etc. Mais toujours dans le respect, mais voilà. Mais surtout en mangeant dans les poubelles.
Alors, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Vous dites que... vous dites vous-même 3 ans, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il s'est passé quoi?
Au bout de 3 ans, il s'est passé que j'ai rencontré un homme avec qui j'ai pu parler un peu dans la rue, mais un homme SDF. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir un peu, quoi. Voilà, à parler.
D'accord, cet homme s'appelait comment?
Louis.
Louis.
Oui.
Donc on continue, si je puis dire.
Oui,
donc qu'est-ce que vous voudriez nous dire de plus? Le propos est, en fait, alors il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Hein. Je sais pas, par exemple, cet épisode qui dit vraiment aussi dans quelle détresse vous étiez, où il y a une femme qui passe tous les jours devant vous, et puis vous dites j'aimerais bien qu'elle devienne mon amie, puis vous la suivez, vous mettez sur le pas de sa porte. Et puis vous lui dites tout simplement que vous voudriez devenir son amie, et puis elle comprend pas, quoi. Je vous ai raconté
cet épisode. C'est un épisode qui explique la différence des codes, en fait, parce que nous, dans la rue, en tant qu'SDF, on n'a plus du tout les codes de civilité, de sociabilité que ont les gens pour devenir des amis, pour devenir des connaissances. Et cette femme qui passait devant moi tout le temps, je me disais, mais si j'avais pas eu tout ça, j'aurais aimé ressembler à cette femme. Et j'ai un peu idéalisé cette femme en disant « Ah là là, si j'avais eu de la chance, je serais comme elle. » Et puis je me suis dit « Pourquoi pas lui parler ?» Et c'est vrai que j'ai pas pris de gants, je suis allée direct la voir, parce que j'avais oublié tous les codes, j'ai oublié tout ça. Et en fait, je lui ai fait très très peur. Je lui ai fait vraiment très très peur. Elle avait repéré que je la suivais. Donc elle se demandait ce que je lui voulais, alors que je voulais rien, en fait. Je voulais pas la voler, je voulais juste lui parler. Et quand on a vraiment réussi à parler, je lui ai dit, je veux être juste votre amie. Elle m'a dit, mais même pas en rêve, quoi. vous me suivez partout, vous avez vu comment, à quoi vous ressemblez, au secours, quoi. Et là, c'était une grande gifle pour moi, parce que je me suis dit, mais c'est normal, l'image que je donne n'est pas du tout l'image que ce que j'aimerais être, voilà.
Alors, je picore, hein, si je puis dire, en fait, dans votre livre, entre autres, vous dites que, donc on peut essayer de se tourner vers des associations, donc vous dites les appels téléphoniques disent clairement la détresse, mais quand vient le face-à-face avec le personnel social, alors c'est la grande panique mêlée de honte, c'est-à-dire que vous aviez des contacts comme ça avec des associations, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête,
en
dans
fait,
votre cœur
pour aller voir les associations, c'est facile, mais après... Mais parler de sa situation et pourquoi on est tombé dans la rue, etc., devant des personnes qui sont payées pour, moi j'appelle ça, elles sont payées pour ça, et ben moi j'avais très très peur, et puis j'avais honte de ma situation, et du coup je parlais pas, et du coup ça tournait en rond parce que je prenais des rendez-vous, mais en fait ça servait à rien parce que j'arrivais pas à parler. Et même si elles étaient certaines très gentilles, certaines non, mais certaines très gentilles qui me tendaient la main, qui me disaient mais vas-y parle, on peut t'aider, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais moi j'arrivais pas à exprimer vraiment ce que je voulais. J'avais perdu tout ça dans ma tête, j'étais perdue dans ma tête en gros.
Mais malgré tout, vous pouviez demander de l'aide, non ? Je sais pas, couverture, vêtements, enfin,
oui, j'aurais pu, mais je pouvais pas. Donc je faisais demi-tour et je repartais sans rien.
D'accord. Et pendant 15 ans, ça a été comme ça ?
Voilà, pendant 15 ans, ça a été comme ça.
Au fur et à mesure, vous n'avez pas accepté. Parce que dans votre livre, vous dites, à un moment, quand vous rencontrez des associations, que vous prenez des vêtements...
Il y a quelques fois, quand j'ai plus rien à mettre sur le dos, je suis obligée d'aller dans des vestiaires... récupérer des affaires. Le problème, c'est que je faisais de 200 kilos et que 200 kilos, il n'y avait pas de vêtements à ma taille. Donc, je prenais des vêtements d'homme. Et donc, du coup, j'étais habillée en homme, en treillis militaire. Et du coup, ça enlevait toute ma féminité. Et quelque part, ça m'arrangeait bien. Parce que du coup, je me faisais... Je croyais que j'allais me faire moins violer en étant ressemblant à un homme. Mais en fait, c'est faux. Je me faisais autant violer que toutes les femmes.
Alors, je continue toujours. Hein. Un moment dans votre livre, vous dites que vous croisez un prêtre, enfin, on y reviendra, un des prêtres que vous avez croisé pendant ces années à la rue, et vous vous retrouvez, en fait, avec d'autres personnes à la rue, donc d'autres SDF, et puis vous dites « J'ai du mal à admettre que je fais partie de leur monde, à les voir tous réunis sous le même toit, et malgré les attentions des bénévoles qui nous accueillent, j'ai l'impression d'être à la cour des miracles ».
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir, en fait, que vous n'aviez pas d'habitude, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Ça veut dire quand on est à la rue, parfois, on...
On est très isolé, chacun dans la rue, on est très isolé, on est dans son monde. Et quand, tout à coup, on réunit plein de monde du même monde, donc difficile, de la rue, dans une pièce, on a l'impression qu'on est dans... qu'on se ressemble tous, et en même temps, on est tous différents, parce qu'on reste des êtres humains, et on est tous différents. Mais on a tous les mêmes traumas. Enfin, toutes les femmes, par exemple, sont violées. Toutes les femmes, il y en a qui ont perdu leurs dents parce que dans les bagarres, elles sont toutes bleues parce qu'elles ont des bleus partout. Et on se dit, mais dans quel monde je suis, quoi ? Dans quel monde je suis ? Et est-ce que c'est mieux de rester seule sur son trottoir, loin de tout le monde, ou de se mélanger avec la cour des miracles ? Voilà.
Est-ce que, donc, pardon, j'en perds mes mots, hein, je suis désolé. Vous dites aussi à un moment, il y a un autre passage, alors je relève d'autres points. Vous laissez entendre à un moment que, un passage qui m'a frappé, parce qu'on se doute qu'à la rue, il y a aussi des espèces de mafias. Mais vous dites à un moment que vous avez connu une période en fait où il y avait vraiment une mafia parisienne puisque vous étiez à Paris en fait.
Oui, je suis à Paris.
Tenue par, donc vous allez nous expliquer. Et en gros, il y avait une mafia qui tenait les gens qui sont à la rue. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Non, c'est pas vraiment ça. C'est en fait pour être dans la rue, pour pouvoir survivre, il faut faire la manche. Et la manche est sur un trottoir et chaque trottoir appartient à quelqu'un. Alors ça, c'est à Paris, mais ça peut être aussi à Marseille. Parce que je sais qu'à Marseille, ça marche aussi comme ça. Et chaque trottoir appartient à des gens de la mafia. Alors nous, à Paris, c'est des gens de l'Est, des Russes et tout ça.
Donc tous les trottoirs de Paris
appartiennent à quelqu'un. Et particulièrement ceux où on fait la manche et que ça marche. C'est-à-dire que moi, je voulais faire la manche devant un supermarché du 18e arrondissement et près de la place de Clichy. Et je voulais absolument pas demander de l'argent aux gens, parce que je trouve que c'est indécent de demander de l'argent, mais de leur dire, par exemple, si j'avais besoin d'un shampoing, de leur demander, est-ce que dans vos cours, vous pouvez rajouter un shampoing et me l'apporter. Et pour ça, il fallait que je sois assise sur ce trottoir qui était en face du supermarché. Et pour ça, il fallait d'abord que je demande la permission à cette mafia. Et comme dans la rue, il n'y a pas d'argent, la seule monnaie d'argent qu'il y avait, c'était mon corps. Et donc, il fallait d'abord que je sois abusée par cette mafia pour avoir le droit de m'asseoir et avoir le droit d'avoir un shampoing.
Donc, vous voulez dire que toutes les femmes qui sont à la rue à Paris ou dans des grandes villes,
dans des grandes villes, oui. Toulouse, je ne sais pas.
Elles sont victimes de ces mafias.
Voilà. Et elles sont encore... elles existent encore.
Et donc vous dites qu'à Paris, en tout cas, côté rue, c'est bien connu. C'est-à-dire que c'est des mafias, des gens de l'Est, en fait.
Alors, il y en a plusieurs. Mais il y a beaucoup de mafias de Rome, beaucoup de mafias des gens de l'Est. Et ils sont très violentes. C'est vraiment... d'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup d'agressions de SDF par ces mafias-là. Parce que vraiment, ils veulent avoir le pouvoir. Et comme le pouvoir, c'est la force, quoi.
Mais maintenant que vous avez écrit votre livre et vous commencez à témoigner, est-ce que c'est connu, par exemple, des pouvoirs publics, ça ? Est-ce qu'à Paris, les pouvoirs publics savent que les trottoirs de Paris sont tenus par les mafias ?
Ils savent, mais bon, ces mafias sont très organisées et la police ne peut pas intervenir, quoi. Sauf si nous, en tant qu'SDF, on porte plainte, mais de toute façon, un SDF, quand il passe la porte d'un commissariat, on le renvoie, donc...
D'accord, donc
je critique pas la police, je travaille avec eux actuellement, mais je veux dire, c'est que, ils sont pas très écoutés, les SDF, quoi.
Mais ça veut dire que donc, les 15 ans que vous avez passés à la rue, d'une manière ou d'une autre, à chaque fois que vous avez essayé de faire la manche, en fait, vous étiez obligé de passer par les mains de cette mafia.
Exactement.
Et donc toutes les femmes aussi, à Paris, à la rue, passent par les mains.
Les femmes et les hommes, les hommes aussi, c'est pareil.
Donc c'est un ou des mafias, c'est ça ?
Voilà.
L'autre chose, à un moment, vous dites aussi qu'il y a comme un commerce aussi d'anxiolytiques, parce qu'en fait, il y a tellement de souffrance, donc c'est le Xanax, anxiolytique assez puissant, et donc on s'échange, revend du Xanax.
Les SDF ont une vie évidemment très difficile, et du coup cherchent un moyen d'oublier. Alors il y en a qui partent sur l'alcool, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de SDF alcooliques. Mais il y a des SDF comme moi qui n'ont jamais touché l'alcool. Mais par contre, on sait qu'il y a des antidépresseurs qui peuvent faire dormir, qui peuvent faire des anxiolytiques, etc. En tant qu'SDF, on a droit à des soins médicaux et on peut demander ce genre de médicaments. Mais en fait, on peut après aussi les revendre à d'autres SDF. Donc en fait, il y a un vrai trafic qui se fait. Par exemple, à Barbès, à Paris, en bas du métro, avant, vous pouviez acheter des cigarettes, etc. Maintenant, vous pouvez acheter du Xanax. Le Xanax en étant un anxiolytique assez fort. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez souligner pour nous aider à comprendre, en fait, l'univers de la rue ? J'ai souligné quelques points que j'ai tirés dans votre livre. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez expliquer aux auditeurs ?
Moi, je peux expliquer la vie des femmes dans la rue, parce que c'est très différent de la vie des hommes, évidemment. La vie des femmes, hier soir, il y avait beaucoup de gens avec qui je parlais, qui faisaient des maraudes, qui me disaient « mais nous, on n'en voit pas de femmes ». Parce qu'en fait, les femmes se cachent. Les femmes ont très, très, très peur de tout ce qui peut être l'environnement de la rue. Donc les hommes, même les gens des maraudes et tout ça, ils ont très, très peur. Donc tout le monde se cache. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Ça, on ne les voit pas. Et donc il faut absolument que les femmes se montrent et que les femmes demandent de l'aide et arrêtent d'être sous le pouvoir des hommes ou sous le pouvoir de la prostitution, parce que automatiquement les SDF femmes deviennent des prostituées ou deviennent sont esclaves de ces mafias. Donc en fait, ça fait un peu comme de la prostitution et il faut vraiment sortir de ça, quoi. Tendre la main dans la rue, dès que vous voyez une femme, il ne faut vraiment pas la lâcher en lui disant « mais on peut t'aider ».
Alors peut-être on y reviendra sur ce que vous nous diriez à tous pour essayer de faire en sorte qu'un jour, il faut avoir cette espérance qu'on ne puisse pas être à la rue comme ça pendant des années sans que personne vous tende la main ou aide à vous en sortir. Malgré tout, pendant toutes ces années de rue, vous faites des belles rencontres. Alors ça vaut le coup peut-être d'en parler. Si vous êtes d'accord, entre autres, vous parlez de ce jeune homme un jour qui est sympa avec vous et qui vous dit, enfin plus que ça, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment d'une grande bonté. Vous dites un jeune homme à l'air angélique, il vous invite à prendre une douche chez lui. Alors au début vous dites je suis encore tombé sur un cinglé.
Oui.
Et puis finalement
oui, je croyais pas du tout en
c'est
fait.
C'est pas le cas. Est-ce que vous racontez cet épisode?
Mais en fait justement j'étais assise devant ce supermarché là. Je faisais donc la manche et il y a un jeune homme qui me dit mais ça fait plusieurs fois que je passe devant toi et je vois que tu as besoin d'une douche, est-ce que tu veux venir prendre une douche chez moi? Je la regarde, je dis, oh là là, un monsieur qui me demande si je prends une douche chez lui, ça craint un peu, mais c'est vrai que j'avais besoin d'une douche, et je sais pas, ça faisait moins trois semaines, j'avais pas pris de douche. Il me dit, pourquoi pas, et donc j'y vais, mais en me disant, il va se passer quelque chose, il va me demander quelque chose en échange. Donc j'avais très peur, et puis en fait j'arrive chez lui, il était adorable, franchement adorable, il m'a offert un thé, mais j'étais toute gênée quoi. Je voulais même pas m'asseoir sur son canapé de peur de le salir. Il m'a dit non, asseyez-vous, n'ayez pas peur, c'est pas grave, ma femme ne dira rien, je sais, en plus vous êtes mariée. Et il dit bon voilà, la douche elle est là, si vous voulez je peux vous prêter un t-shirt de ma femme et tout ça, bon on n'avait pas du tout la même taille mais... Et voilà. Et donc, j'ai pris ma douche. Et ensuite, après, je suis repartie. Hein. Mais franchement, ça m'a marqué parce qu'il y a très peu de personnes qui proposent une douche à une SDF, quoi. Très peu de personnes. Et c'est vrai que cet homme, il a disparu. Après, je ne l'ai jamais revu. Mais je lui dirai toujours merci, quoi.
Et vous dites qu'il vous avait fait des plus beaux cadeaux, en fait, tout au long de ces années de rue.
Oui, franchement, c'est un beau cadeau, quoi. Le respect aussi, le respect qu'il a eu et la douceur qu'il a eu. C'est pas seulement la douche, c'est le côté respectueux qui m'a redonné une image de la femme que j'étais et que j'avais oublié que j'étais ça. Et que je me suis dit, mais donc il y a des hommes gentils en fait, voilà. Les seuls hommes que j'avais en contact, c'était des hommes agresseurs. Donc j'avais oublié qu'il pouvait y avoir des hommes normaux, gentils et ouverts et de bon cœur et... Et ça m'a vraiment touchée, vraiment, ça m'a vraiment transformée. Et après, je regardais les hommes peut-être différemment.
Juste par une rencontre?
Juste par cette rencontre qui m'a ouvert les yeux.
Alors, vous dites aussi un moment que, je sais pas, vous avez découvert le goût délicieux des samoussas, des beignets du nord de l'Inde, farcis aux légumes ou à la viande, épicés avec du piment, du coriandre et du... curcuma.
Du curcuma.
Voilà, parce que vous aviez trouvé une combine, en fait, c'est ça, pour prendre des douches, et puis à cette occasion, on vous offrait des petits-déj de temps en temps.
C'est pas des petits-déj, en fait, c'était dans des immeubles avec des chambres de bonne, où je pouvais monter, et en fait, je repérais beaucoup les gens quand ils rentraient dans leurs immeubles, je repérais le code qu'ils faisaient, et du coup je remontais, et puis un jour en montant prendre une douche, parce que dans les chambres de bonne les douches sont sur le palier et donc sont ouvertes, donc une fois j'avais pris une douche et je suis tombée nez à nez avec un vieux monsieur indien qui lui aussi venait prendre sa douche, mais il habitait là, mais il avait une toute petite chambre de 3 mètres carrés, enfin vraiment tout petit, et donc il me propose de manger avec lui des samoussas, et voilà, donc c'était la petite douceur, on était près pas un rendez-vous, mais une sorte de rituel une fois par semaine où j'allais le rencontrer et je mangeais mes samoussas.
D'accord, vous voudriez souligner d'autres rencontres que vous avez faites, vous citez un certain nombre de prêtres, c'est pas du tout pour tirer la couverture à nous.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Vous citez
alors,
des,
je suis pas
des
du tout chrétienne,
prêtres,
mais c'est vrai que déjà le fait de pouvoir rentrer dans une église, s'asseoir au chaud, déjà c'est énorme. Quand on vient d'être violé ou traumatisé ou simplement quand on a froid, qu'on puisse rentrer dans une église, c'est énorme. Et à force de rentrer dans une église, l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris, il y a un prêtre qui est venu me voir. On a commencé à discuter et puis on est devenus amis. Voilà. Et après, il a essayé de m'aider. Mais bon, dans sa communauté, ça se faisait pas trop. Il disait faut pas s'occuper des SDF et tout. Mais bon, lui, il bravait son supérieur et il venait m'aider. Voilà.
Est-ce que pour finir, vous voudriez dire un mot voilà, on sait qu'aujourd'hui, à Toulouse, il y a beaucoup de femmes à la rue. Enfin, il y en a un certain nombre, semble-t-il, des femmes avec des enfants. C'est vrai qu'on a du mal à avoir des informations. Alors peut-être que c'est une première explication, ce que vous nous donnez. Quand on est à la rue et qu'on est une femme, en fait, immanquablement, à un moment ou à un autre, on se fait violer, en fait, ou c'est...
Immanquablement, oui.
Immanquablement,
ça fait partie de l'horreur, mais du quotidien. Donc, le viol est un... c'est quelque chose qui se passe tous les jours. À la limite, ça perd sa valeur de viol parce qu'on est habitué, quoi. Voilà. cette agression. On va même plus le signaler à la police, on va même plus le signaler dans les hôpitaux, ce qui est un tort parce que maintenant que je sors de la rue, j'ai plein de problèmes de mon corps suite à tout ça. Mais c'est vrai que ça devient le quotidien. Mais bon, vivre en tant que femme dans la rue, c'est très difficile. C'est vraiment le plus difficile, quoi. C'est beaucoup plus difficile que d'être un homme.
Et c'est le quotidien de ces femmes, en fait, qu'on croise, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on croise des femmes qui sont à la rue, immanquablement, on peut se dire qu'elles se font régulièrement violer.
Complètement.
Merci beaucoup, Anne-Laurent. Je rappelle le titre de votre livre. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après, on va parler peut-être de votre résilience, pour pas dire résurrection, en tout cas. Donc, après cette deuxième pause musicale, le titre de votre ouvrage, « Mes années barbares », aux éditions de La Martinière. Ce matin, donc, cette émission spéciale, un peu spéciale en tout cas, avec Anne Lorient, donc auteur de « Mes années barbares », paru aux éditions de La Martinière. Donc si vous nous prenez en cours de route, Anne Lorient a écrit un ouvrage où elle raconte, entre autres, 15 années passées à la rue. Voilà. Vous avez écrit ce livre, alors on n'en a pas parlé, peut-être on y reviendra, avec une certaine Minou Azoulay.
Minou Azoulay.
Minou Azoulay, qui est donc journaliste, vous voulez en dire un mot?
Ben, Minou Azoulay, c'est une personne qui m'a aidée à écrire ce livre, à déclencher cette idée d'écrire. C'est une femme qui est très bien et qui a fait une exposition photo sur les femmes victimes de violences. Et donc, elle avait passé un appel sur les réseaux sociaux en disant « je cherche des femmes victimes de violences ». Parce que communiquer par l'art, c'est beaucoup plus important que communiquer classiquement. Ça interpelle beaucoup plus. Et donc, j'ai vu cet appel. Donc j'ai envoyé ma candidature et tout de suite on m'a rappelé, on m'a donné un rendez-vous et donc je suis arrivée chez Minou, parce que c'était Minou qui faisait ça chez elle. Il y avait une autre personne, Micheline Abergel.
Vous étiez à la rue à l'époque ou...
Non, j'étais déjà sortie, mais je voulais témoigner. Pour moi, mon mode de résilience, c'est vraiment le témoignage. Et je cherchais comment faire. Et donc je me suis pointée et tout de suite on a sympathisé avec Minou et il s'est passé quelque chose. Il y a eu une histoire de rencontre ce jour-là et à partir, donc j'ai commencé à raconter ma vie, tout ça, et on a fait des photos, on a fait le projet photo qui est actuellement d'ailleurs affiché à Paris dans le 8e arrondissement et donc elle m'a dit mais est-ce que t'as pensé à écrire un livre? Et j'ai rigolé, je me suis dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je vais écrire dans un livre, ma vie? Et elle m'a dit, mais si, ce serait bien parce que c'est important de parler de ça. Voilà.
Donc cette femme est journaliste, donc ça fait partie des personnes, on va dire, des vraies lumières que vous avez rencontrées sur votre route. Il y a deux belles lumières que sont vos enfants. Alors, oui. Pouvez-nous en dire un mot, peut-être à chacun
J'ai deux adolescents, donc un de 15 ans et un de 12 ans. Ce sont mes moteurs, c'est-à-dire que sans eux, je ne serais jamais sortie de la rue. Sans eux, alors, mon premier enfant, celui qui a 15 ans, a vécu dans la rue avec moi pendant 3 ans.
Il s'appelle ?
Jérémy. Et il est super, mais bon, c'est vrai qu'il a des traumatismes de la rue. Il a des, voilà. Et Il a fallu faire rencontrer des psychologues, etc. Enfin, il y a un vrai suivi. Mais sans mes enfants, je ne serais pas où je serais aujourd'hui, quoi.
Alors, vous racontez la manière dont est né le premier, Jérémy. Dans le livre, vous l'appelez Elliot, non ?
Oui, parce qu'on a un peu
d'accord.
changé les noms.
D'accord. Donc, Jérémy, en tout cas, et vous accouchez, en fait, sous un pont à côté de Notre-Dame de Paris.
Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de marcher, que je marche beaucoup, et en fait, je savais que j'étais enceinte, on m'a dit que j'étais enceinte de 6 mois, parce que moi, je ne savais pas, c'est ma première grossesse, je ne savais pas comment ça marchait, ni rien. Et j'ai pas senti les contractions, j'ai pas de souvenir de contractions, en tout cas j'ai marché et le bébé est sorti. Voilà, donc il est tombé sur le trottoir, direct. Et donc là c'était un peu la panique à bord, les pompiers sont venus me chercher, m'ont ramené à l'hôpital, etc. Et la première chose qu'ont fait les infirmières, ils m'ont engueulé en me disant « mais pourquoi vous avez fait un enfant puisque vous êtes à la rue ?»
Voilà. Et vous avez pu le garder à la rue ?
Alors, à la maternité, j'ai entendu une conversation d'une infirmière qui était en train d'appeler quelqu'un pour me faire enlever mon enfant. Donc je me suis précipitée, j'ai pris mon enfant sous le bras et je suis partie. Et je me suis sauvée et j'ai gardé cet enfant dans la rue. J'ai eu de l'aide des associations pour les couches, pour le lait, tout ça. Et pour les vêtements d'enfant. Mais sinon, j'avais trouvé un porte-bébé dans une poubelle et pendant ces 3 ans, il était dans le porte-bébé. J'avais un grand manteau noir qui faisait le tour de moi et il se cachait. Et il avait compris qu'il fallait pas faire de bruit, donc il disait pas un mot. Tout le monde pensait que je faisais 250 kilos et en fait non, j'avais juste un porte-bébé avec un enfant dedans.
Enfin, il faut le dire quand même parce que vous en parlez dans votre livre. Ce gosse, avec vous, il a vécu une chose horrible, c'est qu'il a vu en fait un jour où vous êtes fait violer.
Il n'a pas vu, il a entendu. Il a entendu, mais en tout cas, il se souvient actuellement des cris. C'est-à-dire qu'un jour, on était dans un squat avec des amis et il y a une bande d'hommes qui arrive et là, je me fais violer devant lui. Et donc là, il entend que les cris. En tout cas, c'est ce qu'il se souvient. Voilà.
Et il y a des femmes qui sont à la rue comme ça avec leurs enfants.
Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc on peut imaginer que c'est pas le seul gamin qui s'est arrivé.
Pas du tout.
Donc votre deuxième petit garçon, il s'appelle comment ?
Il s'appelle Romain. Mais voilà. Et lui, il est né en fait quand j'étais enceinte de Romain. Là, j'étais voir une association, je leur ai dit, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu avec le premier bébé. Donc j'aimerais avoir un appartement et on m'a donné tout de suite un appartement. Donc là, je suis arrivée dans un appartement dans le 18e arrondissement et ça fait 13 ans que je suis là-bas.
Ce qui veut dire que c'est une question qui me brûlait les lèvres en fait, au long de vos 15 années de rue, à vous entendre en fait. La rue était en partie devenue un refuge pour vous. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est suite à ce que vous aviez vécu. Mm-hmm. Est-ce que c'est vos enfants qui, tout d'un coup, ont servi de déclic, qui vous ont donné envie de vous en sortir ?
Complètement. C'est-à-dire que la rue, pour moi, c'était la suite de l'inceste de ma famille. Et je savais... En fait, j'avais plus d'endroit où aller. J'avais pas d'amis. J'étais très isolée. Je connaissais plus personne. Ma famille, je pouvais pas compter dessus. Donc la rue, pour moi, c'était mon refuge. Je ne savais pas où aller ailleurs. Mais quand j'ai eu ces enfants qui m'ont donné cette force incroyable, qui m'ont fait comprendre que de toute façon, par exemple, mon fils de 3 ans, il n'était pas question qu'il n'aille pas à l'école. C'est juste un détail, quoi. À 3 ans, on rentre à l'école maternelle. Et moi, mon gamin, il est en porte-bébé et je me dis, mais comment il va faire sa vie puisqu'il ne va pas rentrer à l'école ? Donc quand on m'a proposé cet appartement, la première chose que j'ai dit oui pour avoir une adresse, pour avoir une école. Parce qu'une SDF n'a pas d'adresse, donc ne peut pas mettre ses enfants à l'école.
Votre aîné avait 3 ans, c'est ça ?
Voilà. Donc
et
il est rentré
deuxième,
à la maternelle.
Tout petit, du coup, était...
Il venait de naître, donc c'était un bébé. Mais vraiment, j'ai accepté l'appartement pour l'école. Et dès qu'il est rentré à l'école, le seul moyen de communication que connaissait mon fils, c'était la bagarre. Donc le premier jour d'école, il a cassé la gueule à tous les élèves, juste pour dire bonjour. Donc c'était un choc.
Parce qu'il se battait dans la rue ?
Tout le monde se bat dans la rue. Donc il ne sait pas faire autrement que de se battre, il ne sait pas dire bonjour. Donc il a fallu lui apprendre que les relations normales... Alors, j'ai eu de la chance de tomber sur une super école avec une directrice super... et des parents, autres parents des élèves, qui m'ont vraiment accueilli comme, enfin très très bien accueilli. Quoi.
Est-ce que vous avez expliqué ce que vous avez
Oui, j'ai expliqué. Moi, je cache rien. Je dis d'où je viens, je dis ce que je fais. Et quand je leur ai dit, ben oui, mais c'est normal parce qu'il sait pas faire autrement, parce qu'il a jamais connu autre chose. Je peux pas dire que j'ai donné de l'amour à mon enfant parce que je ne savais pas ce que c'était l'amour. On m'a jamais aimé. Je ne sais pas aimer. Donc, comment aimer un enfant? Je ne sais pas. Donc, à l'école, on nous apprend.
Enfin, c'est ce que vous dites, en tout cas, parce que peut-être qu'il dirait autre chose, votre enfant. Mais...
Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je dis. Mais... Et là, on me dit, mais attendez, on va vous apprendre à aimer votre enfant. Et du coup, comme il aura de l'amour, il pourra donner de l'amour aux autres enfants. Voilà. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Enfin, c'est vrai, quand on vous voit en face... Je l'ai dit, hein, ce livre, il est vraiment très très bouleversant, c'est très difficile à lire, même de vous entendre dire ça aujourd'hui, ça a l'air d'aller, si je peux me permettre cette expression.
Oui, je fais mieux.
C'est quoi vos raisons de vivre, de vous battre aujourd'hui, je sais pas
Bah déjà mes deux enfants, ça c'est clair, hein, je veux leur construire un avenir que moi j'ai pas eu, donc je veux vraiment qu'ils aient un bel avenir. Après il y a mes propres combats, c'est-à-dire que je veux absolument aider les femmes qui ont été violées, les femmes de la rue et les femmes victimes de violences, de toute violence. J'ai rencontré Muriel Salmona qui est une grande traumatologue.
Alors, oui. Dites-nous un mot de cette femme, voilà. Parce que vous en parlez, on sent que c'est vraiment, oui. Ça a été une des grandes lumières sur
elle, voilà, c'était vraiment quelqu'un que j'ai rencontré et qui m'a sauvé la vie, c'est-à-dire qu'elle a commencé à m'expliquer que ma vie avec des mots et à mettre des mots sur, plutôt, à mettre des mots sur ma vie. Moi qui pensais avoir une vie unique, la catastrophe absolue, et je m'aperçois que tout à coup, en fait, il y a quelqu'un qui peut mettre des mots sur ma vie et me dire « tu n'es pas la seule ». Et bon là, c'est la grosse révélation, quoi. Comment ça, je ne suis pas la seule à vivre ça? Donc pourquoi? Où sont les autres? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aider? Est-ce qu'on peut m'aider? Enfin, voilà, tout un dialogue qui se met en route, et ça fait vraiment du bien. Tout à coup, c'est la lumière. La lumière, c'est que je ne suis pas seule dans cette situation. Je ne suis pas seule à avoir été violée. Je ne suis pas seule à avoir vécu dans la rue. Ça fait vraiment du bien. Tout à coup, on a une reconnaissance de victime. Parce que moi, je culpabilisais. Tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Et tout à coup, on dit non, c'est pas toi. Ce sont les autres. Et là, ça fait du bien. Voilà.
D'accord. Cette femme, en fait, elle vous a suivi pendant des années, j'imagine, pour vous aider à vous reconstruire.
C'est une femme qui est très très occupée justement à former les gens, les médecins, les juges, les avocats, etc. Donc elle prend plus de patientes, mais par contre, je peux par email ou par Facebook, on peut communiquer. Et moi, quand je fais des crises d'angoisse, quand je vais pas bien, parce que là j'ai l'air d'aller bien, mais il y a des hauts et des bas. Et quand je suis dans les bas, je sais que je peux compter sur elle. Et ça, c'est énorme. Voilà, c'est un appui, une lumière sur laquelle on peut compter.
Pour finir cette émission, je vous avais dit, je voudrais vous poser cette question. 15 ans, c'est long, terriblement long. Qu'est-ce qui vous aurait aidé, en fait, à vous en sortir avant? À vous entendre, il aurait fallu presque avoir des enfants avant, mais qu'est-ce qui vous aurait aidé?
Honnêtement, je pense que si j'avais eu déjà plus d'écoute dans ma famille, dans mon entourage quand j'étais petite, déjà tout ça aurait été effacé.
Donc ça, c'est pour la première
partie sur l'inceste. Déjà, il faudrait écouter plus les enfants, les croire et ne pas dire tu inventes, tu es mythomane, etc. Dans la seconde partie, dans l'SDF, plus de main tendue, plus d'aide, moins de peur de moi, c'est-à-dire moins de peur des SDF.
Et ça veut dire quoi? Parce que tout le monde en croise aujourd'hui,
mais personne ne va les voir, vraiment.
Parfois, certains quand même s'arrêtent, font un sourire, essaient de discuter avec eux, achètent un sandwich, mais on se sent très démunis.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'actuellement...
On ne sent pas les accueillir chez soi pendant plusieurs jours, par exemple.
Non, oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais au moins créer le lien avec la personne SDF. Au moins vraiment un vrai lien d'amitié, un vrai lien entre êtres humains. On enlève le côté toi tu travailles, toi tu es SDF.
D'égal à égal, en fait.
D'égal à égal, s'asseoir au même niveau et accepter qu'un jour, comme tout le monde, on peut aussi avoir des mouvements d'humeur. Un jour, il n'a pas envie de vous parler, mais ce n'est pas grave. Un jour, il vous agresse parce qu'il a été, lui, agressé une heure plus tôt. Ce n'est pas grave. Vous devez arriver le cœur ouvert et rester près de la personne. Après, c'est une question de feeling. C'est comme quand vous rencontrez des gens dans une soirée. Il y a des gens avec qui vous pensez que vous allez devenir copain, et il y a d'autres qui disent bon, non, pas trop, quoi. Voilà, c'est une question de feeling. Et il ne faut pas lâcher. Par contre, c'est un vrai engagement. Il faut,
C'est-à-dire, quand on a commencé à dire bonjour.
On peut aussi aller lui dire. Alors moi, acheter un sandwich, je trouve qu'en France, on ne meurt pas de faim quand on est SDF. Il y a des associations partout. Ça. Par contre, il meurt de solitude et d'isolement. C'est-à-dire que le fait de ne pas parler à personne, il y a des gens qui me disent, j'ai 3000 personnes qui passent devant moi, il y en a deux qui me disent bonjour dans la journée.
Parce que grosso modo, c'est un peu ça le ratio ?
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a, en fait, on ne les voit pas. Ce sont des gens invisibles. Alors ceux que vous voyez...
On les voit ou on passe à côté sans les regarder.
Voilà. Oui, il y en a plein d'autres que vous ne voyez pas. Il y en a plein qui habitent dans leur voiture, il y en a plein qui sont cachés dans des squats, il y en a plein, voilà. Ce que vous voyez, c'est 2%, 2% des SDF. Et les gens ont beaucoup de préjugés sur ces SDF-là. C'est ceux-là qui sont bourrés, ceux-là qui sont alcooliques. Ça. Mais ils ne pensent pas aux SDF qui travaillent. Par exemple, à Paris, moi, je travaille avec la bagagerie. C'est un endroit où les SDF, ils dorment dehors dans leur tente. Et tous les matins, à 7h du matin, ils replient leur tente, ils l'emmènent à la bagagerie, où là, il y a des casiers. Et après, à 7h30, ils vont bosser. Et le soir, ils reviennent à 18h, ils reprennent leur tente, ils vont dormir dehors. Ça, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ces SDF-là. On voit que les SDF qui sont étalés partout, mais on ne voit pas tous les SDF qui sont bien cachés, quoi.
Donc vous diriez, l'essentiel, c'est quoi ? D'avoir une relation simple, en fait ?
Simple, honnête, de leur parler humaine, comme, simplement humaine. On est tous des êtres humains.
De s'arrêter, de prendre le temps de discuter.
Voilà, de ne pas, se jeter une pièce de 20 euros dans la gueule de SDF... parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on se dédouane, on a dit, bah, allez, c'est bon, on a jeté un euro, donc on est tranquille. Non, c'est pas ça. C'est vraiment créer le lien, s'asseoir, ouvrir son cœur, accepter l'autre comme il est et pas accepter l'autre comme on aimerait qu'il soit.
Et c'est déjà beaucoup, parce qu'en fait, c'est beaucoup, une personne ou deux sur 1000 ou sur 2000 par jour.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ? Vous voudriez. C'est quoi votre rêve maintenant ? Le pape François, récemment, et vous étiez
à
Rome, donc ce pèlerinage Fratello, on en a parlé plusieurs fois à l'antenne. Donc c'est plus de 4000 personnes qui sont allées à Rome à la fin de l'année jubilaire rencontrer le pape François.
Alors le pape François, je lui ai offert mon livre avec la dédicace. Je sais qu'il l'a reçu, parce que j'ai reçu une photo où il l'avait dans la main. Mon rêve, c'est qu'il le lise. Voilà. Qu'il le lise et qu'il puisse me contacter pour qu'on puisse faire des choses vraiment très concrètes, voilà.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pèlerinage Fratello, donc pèlerinage qui a eu lieu entre le 11 et le 13 novembre, de personnes, on va dire, en situation d'exclusion?
C'était très émouvant, très actif aussi, on n'a pas arrêté de courir, mais c'était très émouvant de voir tous ces SDF se remplir de l'espoir, se remplir de belles choses. Il y a eu des petits miracles. J'étais témoin de petits miracles, des gens qui ont reçu des grâces. Et franchement, moi qui ne suis pas catholique, là, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose. Et en tout cas, il y avait une belle fraternité. C'était très, très beau.
Votre rêve, ce serait quoi, Anne Lorient, pour finir, et qui rachèterait toutes ces années de barbares, comme vous dites?
Mon rêve, ce serait que mes enfants soient heureux et qu'ils aient un bel avenir. Voilà. Et qu'ils aient pas à subir la reproduction de ma famille et que je puisse couper tout ça. Voilà. Mon rêve, c'est de faire des témoignages et de pouvoir aussi déclencher des paroles, que les gens n'aient pas peur de parler. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Anne Lorient. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, et on sait qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui sont des priants, et donc peut-être peuvent-ils prier pour vous. Je sors peut-être de mon rôle de journaliste en disant ça. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mes années barbares, aux éditions de La Martinière. Anne Lorient, merci de ce livre.
Merci beaucoup.
Et merci d'avoir eu le courage de venir témoigner ce matin.
C'était pas facile.
On imagine. Merci beaucoup. Soyez-en remerciés. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Au revoir.